l'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Hey, salut, bon matin. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Est-ce que vous m'entendez bien en studio?
Moi, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends bien, Yann?
Oh, on va y aller avec ça. Moi, je t'entends pas vraiment, là, mais j'imagine que JS va jouer avec le son pour que je puisse entendre le son du studio. On est en direct du Salon international de l'Auto de Québec. Audrey, si tu étais ici, tu dirais « Wow, à quel point on est chanceux de voir tous ces véhicules-là à Québec. C'est de toute beauté. »
Je t'avoue que je suis un peu jalouse parce que quand on a su qu'on sortait au Salon de l'Auto, je me suis dit « Hey, yes! Je vais pouvoir être là, je vais pouvoir faire le tour. » Pour réaliser que non, moi, fallait que je ressuscite. Fait que tantôt, là, pendant la pause, tu me feras un petit tour là, de ce qui se passe là-bas.
Oui, on est dans les kiosques. En fait, nous autres, on est avec la gang de Boulevard. Priscilla est avec nous de l'équipe promo. On est à la même place que Passion Auto, que Rouler Passion, pardon. Puis on est à la même place que Nitro Pinball. Connais-tu ça?
Nitro Pinball. Non, le fort, tu m'éduques là.
Ouais. C'est une entreprise, de ce que je comprends, c'est une entreprise québécoise. Le gars, il est là avec ses machines à boules qui sont thématiques. T'as des machines à boules de jazz, t'as des machines à boules de Metallica et tout ça. Il y en a à peu près une douzaine, c'est gratuit. Vous pouvez venir faire un tour avec les enfants. Puis ce qui est hallucinant, c'est quand t'achètes ce type de machine à boules-là, tu peux, avec les autres dans le monde qui ont le même type de machine que toi, connaître ton score mondial.
Bon, tout ça. Fait qu'il y a des...
Comme il y a de la grosse masculinité toxique, là, ce que tu veux, c'est de toujours être le premier à pinball, aux machines à boules. Fait que les gars vérifient, Dan Bouchard, qui est un des propriétaires de Rouler Passion, qui me disait, moi, je regarde tout le temps mon score à tous les jours. Là. Chaque fois que je joue avec ma machine à boules chez nous, je regarde mon score pour savoir où est-ce que je suis rendu.
Mais voyons donc, je connaissais pas ça du tout. Fait que t'es bien entouré, toi, là.
Ah, écoute, il y en a des belles ici, je peux te le dire, là. Ah, c'était pas de ça ta question, hein?
Non, c'était
mais
pas
il y a vraiment des belles...
T'es bien parti.
Il y a vraiment des belles voitures. T'as des Lotus, t'as des Porsche, t'as des McLaren, des Lamborghini, des Audi, des Maserati, des Cadillac, des Hummer, des Porsche, des Toyota Supra, des Ford Mustang GT. Sérieux, je suis entouré de belles aujourd'hui. T'as pas idée, là.
Wow, mon Dieu. Je suis jalouse. Moi, écoute, il y a rien qui change ici. La fenêtre, il neige dehors, je suis toute seule, je prends mon café. J'espère que t'en profiteras parce que t'es là pour les trois prochains jours, hein?
Ben oui, j'espère juste avoir les moyens un jour de pouvoir me procurer ce type de véhicule-là.
C'est laquelle que tu spots, mettons, là? T'as-tu fait un petit tour ou...
Écoute, il y en a plusieurs. Moi, je suis plus un type troc, là. Tu sais, j'aime vraiment les trocs. Donc, les petites voitures exotiques, je les trouve très excitantes, là, pour essayer une fois de temps en temps.
Mais
avec
pas.
Les routes du Québec, je serais plus type troc, là. J'ai vu un beau camion de Toyota tantôt. J'ai vu un beau camion Chevrolet aussi. Ce genre de véhicule qui me tenterait. Mais bref, de faire un tour au Salon international de l'Auto de Québec. On est là, puis il y a déjà quoi, à peu près 300 à 400 personnes là, qui sont en train de voir quelle voiture ils aimeraient avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois.
J'aimerais ça. Tu sais, on a des concours aujourd'hui. Là. On a des affaires à donner aux auditeurs, comme d'habitude, des billets pour les remparts, entre autres. J'aimerais ça que ce soit quelqu'un qui vienne te voir sur place, on dirait. S'il y a quelqu'un en ce moment là, qui écoute Boulevard, qui est en route vers le Salon de l'Auto, qui, tu sais, quelqu'un qui pourrait aller te faire une bine, là... ce serait mon défi de la journée. On a une heure et demie ensemble, là, quelqu'un qui peut aller te déranger un peu pendant qu'on est en onde. J'aurais le goût de gâter ces personnes-là. Et je vois notre technicien qui a fait, écoute, on a déjà une personne.
Ouais, c'est ça, le technicien qui t'écoute puis qui a pris ce que tu disais pour quelque chose de vrai, là. Exact. Hey, je me suis fait frapper. Hey, je voulais te parler de ça, Audrey. Je sais pas si tu l'as vu passer. Connais-tu la famille Abbatiello des restaurants, des pizzerias,
Salvatore.
En fait, Salvatore?
Oui.
C'est assez weird ce qui leur arrive présentement parce que Salvatore, on va se le dire, c'est une belle chaîne de pizza. Puis à un moment donné, ils ont comme changé leur modèle marketing puis ils ont dit, ben les propriétaires de la chaîne Salvatore, nous, on va se mettre de l'avant puis on va se mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vu ça passer?
Bien, je les ai vus passer beaucoup, oui, sur les réseaux sociaux parce qu'avec les pizzerias, je veux dire, ils font du solide stock, là. Mais il y a aussi leur projet d'immobilier qui fait pas mal jaser d'eux ces temps-ci, là.
leur projet d'immobilier. Puis Guillaume Abatiello, la semaine passée, était à une émission qui s'appelle « Tout peut arriver » en compagnie du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Puis il y avait des sujets qui étaient somme toute très intéressants. On parlait de culture et tout ça. Et à un moment donné, ben, M. Abatiello était là. Il était quand même assez posé dans ses propos. Et quand il est sorti de là, il est arrivé dans sa voiture. Puis il a fait comme toute la famille Abatiello de Pizzeria Salvatore présentement. Là, c'est qu'il a fait des réseaux sociaux. Et là, il a carrément dit, écoutez, quand nos affaires ne fonctionnent pas, on ne va pas dire au gouvernement de nous donner de l'argent en parlant de la culture. Et ça a soulevé un tollé, Audrey, là. T'as pas idée sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Culture qui disait hier sur une vidéo que, écoutez, ça a comme pas de bon sens, là, ce que Abatiello a dit. Mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit? Puis est-ce que c'est quelque chose qui peut te déranger, Audrey? Parce qu'on le sait qu'on dilapide de l'argent dans la culture. Puis pour moi, la culture québécoise est hyper importante. On peut faire de la télé, on peut faire du théâtre avec ça, on peut faire des super de bonnes chansons et tout ça. Mais à un moment donné, on donne de l'argent, des milliers de dollars à des artistes qui sont déjà multimillionnaires. Tu sais, Éric Lapointe bénéficie encore, ouais, il y a de ça quelques années, de subventions qui étaient peut-être, qui auraient pu aller à des artistes émergents qui commençaient dans le milieu. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est pas tant les propos de M. Abatiello, c'est le fait que tout le monde saute dessus parce qu'il essaie d'aller dans un endroit où c'est pas tout le monde qui va, c'est-à-dire, est-ce qu'on met notre argent toujours aux bons endroits?
C'est ça, c'est une opinion impopulaire, en fait. Fait que c'est sûr que ça fait réagir. C'est drôle parce que je me suis déjà posé ce genre de questions-là aussi, dans la mesure où je me dis, je comprends qu'il y a un budget puis il y a de l'argent qui va à certains endroits pour certaines raisons, mais moi, tu vois, je prioriserais la santé, je prioriserais, tu sais, je pense aux itinérants qui sont de plus en plus présents à travers le Québec. J'essaierais de fournir, ouais, des solutions. Tu sais, pour moi, l'argent devrait peut-être effectivement aller ailleurs avant. Puis, écoute, la personne m'échappe, mais j'avais déjà posé la question à savoir pourquoi il y avait certains budgets qui allaient, par exemple, en culture, puis qu'on ne redirigeait pas l'argent pour créer, mettons, des priorités, je vais le dire comme ça. Puis on m'avait répondu que c'est parce que le budget, il est fait d'avance et il y a des montants qui sont déjà prévus, par exemple, pour la culture, donc on ne, ouais, touche pas à ça. Pour la santé...
C'est
des portefeuilles.
C'est des portefeuilles,
carrément,
exact.
Exactement. Et je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'y revoir un peu, là.
Parce que lui, tu sais, bon, il a dit que parfois, les produits qu'on mettait à la télé, c'était de la marde. Puis il disait, ben, tu sais, moi, je mettrais pas de l'argent dans quelque chose qui ressemble à de la marde, tu comprends? Ouais. Il a utilisé des propos qui s'adressent peut-être un peu plus aux jeunes pour tenter de se faire comprendre, mais c'est la tollée que ça a fait sur les réseaux sociaux. La gang de Pizza Salvatore, il y a des gens qui appellent au boycott de cette pizzeria-là, alors que c'est une super de belle entreprise qui était faite par un gars qui s'est établi ici chez nous, puis qui a embauché des gens de chez nous, là.
Oui, bien, je comprends que ça peut choquer en même temps, parce que c'est pas parce que pour toi c'est de la merde que c'est de la merde pour tout le monde. Je veux dire,
là-dessus, on suit, là.
Tu sais, il y a du bon contenu pour tous et chacun. Ça peut pas plaire à tout le monde. Tous les goûts sont dans nature. Fait que peut-être qu'il y a eu un manque de délicatesse. En même temps, c'est-tu quoi, Yann? Il fait ça pour une raison. Et le but, c'est de faire parler de lui, de sa famille, de sa business, et ça marche. Ouais. Fait que le gars est bright, là.
Oui, je suis pas sûr que si c'était à refaire, il referait la même chose, Audrey. Mais moi, ce que je regarde, c'est à partir du moment où quelqu'un pose des questions, mm-hmm, ou émet des commentaires, il y a toujours des gens qui sont complètement à l'opposé, qui vont tout faire pour faire fermer cet individu-là, que ce soit lui, le faire canceller, ou encore, si ce gars-là, il y a une entreprise, de faire canceller totalement son entreprise. Il a dit quelque chose qui pouvait être dit dans des mots qui étaient assez particuliers, on va se le dire. Mais pour le reste, c'est vrai que de subventionner des artistes qui sont déjà multimillionnaires, ça n'a pas de bon sens, là. Puis ça n'a pas de bon sens que la communauté artistique cautionne ça. Moi, l'argent devrait toujours aller aux artistes émergents, à ceux qu'on ne connaît pas encore, qui ont un talent incroyable, qui vont peut-être se faire découvrir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais de constamment donner de l'argent aux mêmes personnes, puis de voir que ces gens-là sont déjà extrêmement fortunés, puis on ne leur a jamais demandé de rembourser les subventions qu'on leur a octroyées.
C'est ça, ils ont déjà
réussi.
Ça
peut être fâchant.
Mais je serais curieuse.
Mais qu'est-ce que ça a comme impact dans le public en général ou chez les médias en général, chez les journalistes ou encore chez un animateur de télé, de radio? Qu'est-ce que ça a comme impact? Quand tu vois ce genre de gars-là se faire canceller comme ça, de cette façon-là, parce qu'il émet une opinion, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur toi?
Bien, là, tu me parles de liberté d'expression, j'imagine, là.
Ouais, qu'est-ce que ça peut avoir? Est-ce que tu vas faire plus attention quand tu vas parler de ce type de subvention-là
ben oui,
qui est octroyée à des millionnaires?
Ben oui, c'est sûr.
Ouais, ben. Mais c'est le danger, Audrey. Ben c'est oui. Ça, le danger. C'est le fait de se faire canceller parce que tu poses des questions qui sont hyper pertinentes. Les artistes ont... Là, ça a soulevé un tollé. Les artistes ont l'impression que c'est de leur argent, c'est de l'argent qui leur est dû, alors que c'est de l'argent que toi, moi, les auditeurs qui nous écoutent, c'est de l'argent qu'eux accumulent, travaillent extrêmement fort. Actuellement, on est dans un moment de notre vie assez particulier, là, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, le Canada, l'incertitude, Poutine, l'Ukraine. Mais ce qui est particulier, c'est que il y a deux parents qui travaillent 40 heures par semaine pour faire fonctionner une maison avec les enfants, et ces gens-là n'arrivent plus. C'est pas une généralité,
non,
là.
Mais
il y a un fort pourcentage de gens qui travaillent à temps plein qui sont plus capables d'arriver. Et là, tu vois des artistes qui demandent encore plus et toujours des subventions comme si cet argent-là leur était dû. Moi, je suis conscient qu'il faut subventionner le milieu artistique, mais lâcher déjà les artistes qui sont multimillionnaires.
Ouais. C'est-tu où mon malaise en ce moment? Puis je t'écoute plus que je parle pour une raison, c'est que je me dis, j'aimerais savoir l'autre côté de la médaille. Il faudrait peut-être recevoir un artiste ou recevoir quelqu'un qui peut nous parler justement d'exactement comment ça fonctionne, ces subventions-là. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Parce que je t'amène ailleurs en même temps, là, puis écoute, je connais pas tous les fins détails de ça, mais on parle souvent du fait que nos artistes qui sont sur les plateformes streaming, par exemple, tu sais, ils reçoivent rien de Spotify, d'Apple Music. C'est genre 3 cents par écoute, là.
Fait que, tu sais... Ah, c'est des montants qui sont ridicules.
Ah, ridicules! Fait que, tu sais, oui, ouais. Peut-être que nos artistes sont fortunés d'une certaine façon, mais des fois, je me demande à quel point ils font tant d'argent que ça, nos artistes, au Québec. Fait que je serais curieuse d'avoir la balance de tout ça, par exemple.
Je suis conscient que pour ce qui est des plateformes de diffusion, là, c'est des montants qu'ils reçoivent qui peuvent être effectivement ridicules. Mais quand ces gens-là, Audrey, vont en salle maintenant, puis ils réussissent à vendre énormément de billets, le pognon est là maintenant. Quand tu es capable de remplir un amphithéâtre, comme Marie-Mé pouvait le faire dans le temps au Centre Bell, je veux dire, le pognon allait directement dans l'entreprise qui embauchait Marie-Mé. Là. C'est là qu'il y a l'argent à faire. Ce qui fait en sorte que si tu es un bon artiste, qu'on t'a subventionné, puis t'as monté, puis tu es capable de remplir des salles. Pourquoi moi, en tant que payeur de taxes, je te subventionnerais toi?
Non, ça, je comprends ton point, mais en même temps, encore une fois, je te relance. T'sais, on n'a pas tant d'artistes québécois que leur carrière va tellement bien qu'ils peuvent se permettre d'aller à l'international, qu'ils remplissent des super grandes salles. T'sais, de plus en plus, l'argent avant, ils pouvaient les faire avec les ventes de disques. Bon, tu recules encore, les ventes de vinyle, la merch. Là, le dollar loisir est vraiment moins présent. Les gens vont aller voir des spectacles, mais ne consommeront pas de la même manière. Les billets de spectacle pour nos artistes québécois sont pas si chers que ça, là. Fait que je serais quand même curieuse de voir à quel point ils sont capables de faire de l'argent. Ceci dit, je suis d'accord sur un point avec toi, c'est celui de l'argent à nos artistes émergents. Ça, je pense effectivement qu'on les met pas assez de l'avant. Ils sont obligés d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour se faire une place dans l'industrie, là.
Moi, vendredi, je m'en vais voir un artiste émergent. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui fait des blagues à répétition. Son nom d'artiste, c'est Faf. F-A-F. C'est un humoriste. Puis, il commence par des petites salles. Il commence pas par Albert Rousseau, là, lui.
Non,
il commence
ça.
À la salle La Chapelle. Puis, on va être quelques dizaines de personnes ou peut-être même une centaine de personnes qui vont aller le voir. Puis, il va commencer à se monter avec des petites salles. Si un artiste comme Faf est capable de le faire, pourquoi les chanteurs, les chanteuses sont pas capables de faire ça?
Ah, mais ils le font. Ils le font. C'est juste à quel point ça donne des retombées monétaires. La question est là. Mais c'est-tu quoi? Je pense que ça vaudrait la peine de recevoir quelqu'un qui pourrait nous expliquer exactement comment ça fonctionne, qu'on ait les deux côtés de la médaille. Parce que je suis pas prête à critiquer ces subventions-là qui vont à nos artistes. Est-ce que l'argent va à la bonne place tout le temps? Pas nécessairement. Encore une fois, je prioriserais d'autres choses. Mais je suis pas contre non plus.
Moi, je critique la réaction face à des commentaires qui font pas vraiment l'affaire d'une partie de la population, entre autres les artistes, de voir que ils ont travaillé si fort, la famille Abbatiello, avec les pizzas Salvatore, de voir qu'il y a des gens qui veulent les canceller parce qu'il y a un des enfants qui dit « Savez-vous quoi? Pour ce qui est des subventions, d'après moi, il y a des places où ça va que ça devrait pas aller. Puis quand c'est de la merde, on devrait pas mettre de l'argent là-dedans. » Il a peut-être pas utilisé les bons mots, comme on a dit tantôt, mais t'as le droit de le dire. 100%. T'as le droit de le dire. C'est de l'argent du public.
Là-dessus, t'as vraiment raison. Je pense que la différence entre les gens qui réagissent fort en ce moment, ces internets, puis moi puis toi qui en parlons comme ça, c'est qu'on est capable de cibler ses propos. Les gens qui réagissent à ces vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est plus que ses propos. C'est l'individu. C'est ce qu'ils font déjà sur les réseaux sociaux. C'est les opinions qu'ils partagent déjà. C'est le fait qu'ils font déjà réagir depuis une couple de mois, pas juste avec Salvatore, mais avec leur nouvelle plateforme qu'ils veulent mettre en place au niveau immobilier, mise en demeure. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que les gens qui les haïssent, là, la famille, là, ils les haïssent déjà en partant. Fait que je pense que c'est pas tout à fait juste les réactions au moment où on se parle. Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends. Mais si je dis demain matin, puis c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi, si je dis demain matin, moi, savez-vous quoi, j'ai écouté tout le monde en parle, puis la plupart des sujets qui étaient abordés, il n'y a personne qui me parle de ça autour de moi. Mm-hmm. À mes yeux, à moi, ça ne devrait pas toujours être subventionné, tout le monde en parle, alors que c'est subventionné et année après année. Puis Guillaume Lepage, il tire un très grand profit là, de l'animation de Tout le monde en parle, à lire ses cartons. Je vas-tu me faire canceller, Audrey, si j'ai dit ça?
Vas-tu
me faire canceller par la communauté artistique à Montréal?
Tu vas te faire critiquer, assurément.
Alors que c'est à propos, l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Puis des fois, on a des sujets qui arrivent. Voyons, j'ai même pas entendu parler de ça la semaine. Puis là, tout d'un coup, tu vois une rubrique là, dans les sous-rubriques de la presse où il y a eu un article qui a été écrit à cet effet. Puis là, la personne est présentée comme étant le sujet de la semaine. On a encore le droit de critiquer puis de voir qu'on tente encore en 2025 de canceller des gens qui pensent pas comme nous. Je trouve ça extrêmement dangereux pour la liberté d'expression. Sur la route!
Sur la route en ce moment, il y a un accident si vous êtes sur Charest, direction ouest. En fait, c'est pas vrai. L'accident est direction... Non, c'est ça, direction ouest. Je suis à bonne place. À la hauteur de... Je vais vous dire la bonne chose. À la hauteur de l'avenue Saint-Sacrement. Et ça crée des ralentissements dans les deux directions au moment où on se parle. Il y a quelques problèmes aussi si vous êtes sur Laurentienne-Sud, dans la bretelle pour aller chercher la capitale, direction ouest. Pour ce qui est de la rive sud, c'est complètement dégagé. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit de plus, c'est le 418-971-1021. Pour ce qui est de la météo en ce moment, Yann, t'es-tu occupé de ton bord où je me lance?
Ah, vas-y.
Il y a des avertissements de pluie. On prévoit de 20 à 30 mm de pluie à compter de cet après-midi jusqu'à jeudi soir. La pluie combinée à la fonte de la neige là, qui pourrait causer des accumulations d'eau sur les routes. Les basses terres aussi, ça se peut que ça gèle parce qu'on va avoir des températures qui vont aller quand même jusqu'à du 7 degrés dans les prochains jours. Mais les nuits, ça peut rester froid quand même. Là, je regarde présentement, c'est un 0 degré, un maximum de 2 pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, on est à 3 degrés. C'est demain le 7 degrés, toujours sous la pluie. Mais tu vois, la nuit prochaine, la nuit de jeudi à vendredi, c'est un moins 5. Fait que c'est là que ça risque de geler. Vendredi matin, moins 4. On est vraiment là sous la pluie et les flocons en fin de semaine. Le soleil a une possibilité de sortir dimanche seulement jusqu'à maintenant.
Ce qui est weird, c'est que tu m'as demandé si j'étais équipé de mon bar. Ça me rappelait mes grosses soirées sur la Grande Allée dans le temps.
Mais regarde, je me suis patchée. Je me suis dit d'un coup que t'as rien autour de toi. J'ai tout d'ouvert. On est correct, là.
Oui. Hey, aujourd'hui, on parle du sommeil.
Oui, on parle avec Maude Bouchard, qui est neuropsychologue spécialisée en sommeil. On l'a déjà reçu il y a... je pense que c'est avant Noël, la dernière fois, si je ne me trompe pas. Puis ça vous avait tellement fait réagir au 88-971-1021. Si vous avez des questions, encore une fois, vous ne vous gênez pas. Puis aujourd'hui, on aborde un peu tout et rien. C'est-à-dire qu'on va parler des troubles de sommeil les plus courants, de somnambulisme, de sexomnie. Ça, c'est le somnambulisme sexuel. On a déjà entendu parler dans l'actualité. C'est une vraie affaire ou pas? La paralysie du sommeil, tout ce qui est rêve, les horaires atypiques. Fait que si vous avez des questions, là, ça se passe vraiment au 88-971-1021. Puis là, ben Yann, ça va être particulier parce que je suis en studio, notre invité est par Zoom, puis j'étais à distance aussi. Fait que ça va être une communication d'une première fois, notre affaire.
Ça peut pas être pire que les premières secondes de show-là, je peux
non,
te le dire.
Je pense que là-dessus, on s'entend.
Kamakazi, comptez les secondes sur Boulevard. D'ici là, si vous avez quoi que ce soit, 418-971-1021. Les commentaires, il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. En direct du Salon international de l'auto de Québec, c'est un plaisir de vous rencontrer ici sur place. Déjà, quelques auditeurs qui ont fait des saluts bye-bye. On a des petits cadeaux à vous offrir si vous passez au le kiosque de Boulevard 101 où je suis. Audrey est, en studio, donc elle n'est pas avec moi. Mais bref, vous pouvez venir ici. On a des petits porte-clés, il y a des collants, il y a des porte-gobelets aussi qui sont intéressants pour les auditeurs qui vont passer. Juste vous dire que je suis entouré actuellement, Audrey, comme je te disais tantôt, de Maserati, de Cadillac, d'Audi, de Chevrolet, de Lotus, de Porsche, de McLaren, de Lamborghini, d'Audi. Mes gars, ils étaient au Bahamas tantôt pendant que je leur parlais. Ils étaient dans leur cabine de bateau et je leur montrais ces véhicules-là. Et ils auraient préféré être avec leur père ici que sur un bateau au Bahamas.
Et mon Dieu, qu'ils se rendent pas compte, hein? Yann, hier, tu disais que ta masculinité en avait pris un coup étant donné que ton Jeep est en réparation puis que tu es en petite vanne blanche. Est-ce que d'être au salon de l'auto, ça aide un peu tes hormones à se balancer, là?
Oui, surtout que je suis dans un kiosque de rouler passion, là. Fait que j'ai des véhicules qui m'en remettent, mentalement en forme.
Je suis contente d'entendre ça. Hey, 88-971-1021, Yann, tu vas être avec nous le 14 mars prochain à la soirée Boulevard au Centre Vidéotron?
Ben oui, ben après ça, ben après le show qu'on va avoir sur glace, il y a un gros show de musique. Ça va être la gang de Caïn qui va être là, puis on va aller prendre une bière avec les auditeurs à ce moment-là.
Effectivement. Donc, soirée Boulevard au Centre Vidéotron, 14 mars prochain, c'est vendredi prochain. Les animateurs qui vont être sur place, on a des billets à faire tirer cette semaine pour être dans la même section que nous. Les Remparts qui vont affronter les Saguenay de Chicoutimi à partir de 19h. L'escouade Boulevard qui va être là, on va avoir le fameux spin le vinyle pour gagner des prix, remettre des cadeaux également. Performance après match, tu l'as dit, c'est le groupe Caïn qui va être là. Max Pimon, on est bien énervé d'entendre Adam et Ève. Ça va se passer dans le hall principal. C'est encore le temps d'acheter vos billets en passant si jamais vous voulez participer. C'est sur ticketmaster.ca. Même prix, même place que d'habitude pour le match des Remparts. Et bien, nous, on a 4 billets pour le match à vous faire tirer ce matin. Yann, là, t'es entouré, là. Fait que c'est toi qui colle l'indice ce matin.
Les 4-5 premiers mots du refrain d'Adam et Ève.
Oh, c'est bon, ça! Hey, c'est facile, la gang. 88-971-1021. On revient dans quelques instants avec notre invité. On s'en va en pause. On revient dans quelques minutes. Yann, tu restes là?
Oui.
All right, on s'en jase tantôt.
Ce segment d'émission présenté par...
C'est 0 degré sur Québec pour aujourd'hui. Environnement Canada nous émet un avertissement de pluie qui pourrait être en vigueur pour toute la soirée. Pour l'instant, on nous dit qu'il neige sur Québec et en après-midi, cette neige devrait se changer en pluie. On parle de pluie verglaçante, bien entendu, donc il faudra se méfier sur la route. Ce soir, cette nuit, c'est de la pluie. Encore là, risque de pluie verglaçante avec un genre de 15 mm annoncé. Des rafales à 60 km/h, température à la hausse pour atteindre un 7 au courant de la nuit. Et demain, jeudi, ben, ça sera le temps de pelleter ce qui restait à pelleter puis qui a gelé, malheureusement, parce que ça va être quand même une température qui va être un peu plus adéquate, là. On parle d'un genre de 4 en après-midi. Fait que la neige va être peut-être un peu plus molle. Pour ce qui est de vendredi, ce sera nuageux avec 70 % de probabilité d'averse, maximum de moins 4. Et si je continue pour la fin de semaine, c'est de la neige pour samedi et une alternance de soleil et nuages pour dimanche, maximum de 6 pour samedi et maximum de moins 4 pour dimanche. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Audrey.
Il y a toujours cet accident qui est présent sur Charret, direction ouest, à la hauteur de l'avenue Saint-Sacrement. Ça crée des ralentissements là, dans les deux directions au moment où on se parle. Je regarde le reste de la carte, toujours des problèmes si vous êtes sur Laurentienne, direction sud. Vous tentez d'aller chercher la capitale, direction ouest. Pour le reste, bien, il y a quelques problèmes aussi sur Wilfrid Hamel à la hauteur, je vous dirais, de la route de l'aéroport. Là, quand même difficile de circuler la rive sud. C'est clair, évidemment, comme Yann l'a dit, 971-1021, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas.
Quel plaisir de l'accueillir avec nous. Elle va parler d'un sujet qui touche tout le monde, c'est-à-dire le sommeil. Qu'est-ce qu'une bonne qualité de sommeil? Qu'est-ce qu'une mauvaise qualité de sommeil? C'est quoi le somnambulisme? C'est dû à quoi? On va peut-être parler un peu de la sexomnie, mais très légèrement, puisqu'on va se garder ce sujet-là peut-être pour plus tard avec elle. Et on va parler de son travail en général. J'ai le plaisir de l'accueillir. Son nom, c'est Maude Bouchard, qui est neuropsychologue spécialisée en sommeil. Salut, Maude!
Salut!
Merci d'être avec nous ce matin. Comment tu as eu idée de te spécialiser en sommeil? Est-ce que tu avais toi-même des problématiques du sommeil?
En fait, non. J'étais à l'université. J'avais des profs incroyables qui travaillaient dans le domaine du sommeil. Puis je me suis dit, ben, ça serait bien trippant de faire ça. Tout le monde dort, donc puis il y a tellement de problèmes de sommeil aussi dans la population. Fait que je me suis lancée là-dedans. Puis j'ai pas regardé en arrière.
Elle a fait une étude de marché assez rapidement. Elle s'est dit, dans ce domaine-là, je manquerai pas de job.
Exactement.
Les troubles du sommeil les plus courants, Maud, ceux que tu traites, dont tu entends parler le plus souvent, c'est lesquels?
C'est l'insomnie, certainement. Il y a une personne sur deux, en fait, qui a des symptômes d'insomnie dans sa vie, puis on a entre 10 et 20 % de la population qui souffre d'insomnie chronique. Ça veut dire que les problèmes sont là plusieurs fois par semaine depuis plusieurs mois. Et si on pense à une population de gens qui ont des horaires atypiques, c'est encore plus que ça, on peut doubler ces chiffres-là généralement. Donc l'insomnie, on a l'apnée du sommeil aussi qui est quand même fréquente, hein, le fait d'arrêter de respirer pendant qu'on dort. Il y a peut-être des gens qui se reconnaissent, on est très somnolent pendant la journée quand ça arrive parce que notre sommeil est très fragmenté. Donc ça, c'est deux bons troubles de sommeil qu'on retrouve beaucoup dans la population.
Maud Bouchard, c'est quoi les impacts d'un mauvais sommeil sur la santé psychologique et physique?
Bon, ça, c'est peut-être la partie un peu déprimante, hein, parce que les impacts, ils sont très larges. Et on sait que la population, non seulement souffre parfois de troubles de sommeil, mais aussi est en grande privation de sommeil. On a tendance à sous-estimer le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, ou des fois, juste à pas le prioriser parce qu'on a d'autres priorités. Hein. Donc, les impacts que ça peut avoir, ça a des impacts sur notre humeur. On peut être plus irritable. On a aussi des impacts sur le cerveau, c'est-à-dire qu'on est moins attentif, on peut avoir des problèmes de mémoire. Moins de motivation, peut-être en général aussi, hein, puis juste moins performant, même au niveau moteur. Je pense aux athlètes ou aux gens qui s'entraînent, ça peut avoir des impacts à ce niveau-là aussi. Donc, sur la santé psychologique, c'est lié à des problèmes comme l'anxiété, comme la dépression. Puis peut-être la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est une relation bidirectionnelle. Hein? Donc, le mauvais sommeil peut venir influencer des symptômes dépressifs ou anxieux, mais le contraire est aussi vrai. Puis moi, je dis toujours, si on est en dépression ou en burn-out, ou on souffre d'anxiété et qu'on a des problèmes de sommeil, on veut traiter les deux.
Maud, il y a plusieurs questions qui entrent par texto et de nos amis sur le Twitch, twitch.tv, blvd-fm. Il y a quelqu'un qui dit « l'insomnie, j'entends souvent dire que c'est très féminin. Est-ce que ça a un rapport avec les hormones? »
Ça peut avoir un rapport avec les hormones et c'est vrai que les femmes, par exemple, à la puberté, pendant la grossesse, après aussi, puis pendant la périménopause puis la ménopause, ont plus de chances de souffrir d'insomnie parce que le sommeil, c'est régulé hein, par des hormones à la base. Par contre, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas souffrir d'insomnie et il y en a pas mal aussi qui souffrent de ce trouble-là.
Parlant de fiabilité, il y a une autre question qui entre, qui est à quel point c'est fiable les montres intelligentes qui parlent de qualité de sommeil ou le fameux « body battery » là?
Bonne question. En fait, elles sont de mieux en mieux, je dirais. La science commence à démontrer qu'ils deviennent pas pires pour donner certaines caractéristiques de notre sommeil. Une chose à laquelle je m'attarderai pas trop, c'est les pourcentages de stades de sommeil. Elles sont pas encore très bonnes pour différencier des fois entre le sommeil lent profond ou le sommeil paradoxal, hein, le sommeil des rêves. Et l'autre chose que je dis souvent par rapport on appelle ça les wearables, mais les montres intelligentes ou les bagues, c'est de voir est-ce que ça nous stresse plus par rapport à notre sommeil. J'ai des exemples des fois de patients qui se réveillent, ils se disent « Ah, j'ai eu une nuit de sommeil pas pire, hein, c'était pas si pire que ça. » Ils regardent leur montre puis ils voient tout ça en rouge et ça les fait stresser. Donc, à ce moment-là, on va le mettre un peu plus de côté. Par contre, c'est quelque chose qui vous motive à avoir des bons comportements, à avoir un horaire de sommeil un peu plus régulier, à faire de l'exercice physique aussi, bien là, ça, c'est super.
Maud, moi, j'en ai pas de problème de sommeil. Il y a plusieurs personnes qui me considèrent comme étant extrêmement chanceux. Là. Quand je me couche sur le dos, je me réveille sur le dos, je ne bouge pas pendant la nuit, je suis droit comme une barre. Et j'ai pas eu énormément de conjointes, là, mettons 125. Et les conjointes que j'ai eues, pour la plupart, en majorité, tournaient d'un bord, tournaient de l'autre, se couchaient sur le ventre, se couchaient sur le dos. Est-ce qu'il y a une hormone qui, moi, est envoyée dans mon cerveau pour justement que mon corps ne bouge pas, que ce soit pratiquement catatonique, là?
Pas nécessairement. En fait, il faut savoir que pendant la nuit, c'est vrai qu'il y a des stades de sommeil en particulier, je pense au sommeil paradoxal, dans lesquels on ne bouge pas du tout. Mais ça, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, si on se met à bouger dans le sommeil paradoxal, mais ça, c'est un trouble de sommeil, il faut en parler à son médecin. Ah. C'est fait pour qu'on n'agisse pas nos rêves, hein, parce que dans le sommeil paradoxal, on rêve, les rêves vivides, hein, des images, c'est souvent les rêves dont on se souvient le lendemain matin, mais on ne bouge pas du tout. Après, de pas bouger dans la nuit, ben là, ça peut dépendre de plein de choses. Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on a de la douleur? Est-ce qu'on a justement d'autres types de problèmes de sommeil? Mais tant mieux si vous dormez bien. Je pense qu'il y en a plein dans votre situation aussi. Hein. Il n'y a pas juste des gens qui dorment mal. Donc, c'est très bien.
Moi, c'est le genre de chose qui fait vraiment mon affaire parce que j'ai l'impression de dormir en 5 minutes alors que j'ai fait mon 5, 6, 7, 8 heures de sommeil, là, tout dépendant de combien d'heures je dors. Mais j'ai eu une conjointe, entre autres, qui faisait comme l'effet miroir, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait dans ses rêves. Exemple, elle courait, ben, ses pieds bougeaient. Elle frappait dans son rêve, ben, le coup de poing partait, puis je pouvais recevoir le coup. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là sont comme semi-éveillés, semi-endormis?
En fait, c'est difficile à dire comme ça, mais comme je disais, c'est des symptômes, des choses qu'on peut parler des fois à son médecin pour voir, ben, est-ce qu'il y a un trouble de sommeil en arrière de ça? Est-ce que on est dans la normalité? Puis ça dépend dans quel stade de sommeil ça arrive aussi. Donc, difficile à dire, mais il y en a quand même beaucoup des gens qui bougent, hein, pendant leur sommeil.
Il y a des auditeurs qui nous demandent pourquoi on a l'impression de toujours se réveiller à la même heure la nuit. Puis c'est une question qui est sortie sur le Twitch. Et là, il y a plein de gens qui confirment. Et moi, je me réveille toujours à 3h11. Moi, je me réveille toujours à 2h10. Est-ce que c'est vraiment un hasard ou il y a peut-être quelque chose qui explique ça?
Bien là, moi, je trouve que notre horloge biologique dans notre cerveau, il faut vraiment savoir, on a une petite structure dans notre cerveau qui gouverne plein de rythmes dans notre corps et qui fait en sorte qu'on dort la nuit comme humain puis qu'on est réveillé pendant la journée pour la plupart des gens. Et cette horloge biologique-là, elle est très, très forte. Donc, il y a vraiment des hormones qui sont sécrétées en soirée, comme par exemple la mélatonine, hein, qui va être sécrétée 2-3 heures avant qu'on s'endorme. C'est sécrété pendant la nuit, puis pendant la journée, ça, on n'en sécrète pas. Donc ça se répète à tous les 24 heures. Et il y a des gens, effectivement, qui vont se réveiller pas mal toujours à la même heure. Par contre, je leur dirais, ils regardent l'heure aussi en se réveillant. Ça vient comme confirmer que, OK, je me suis réveillée à 3h11. Moi, une chose que je dis souvent, c'est de pas la regarder l'heure quand on se réveille pendant la nuit, parce que souvent, ça nous fait penser à plein d'affaires ou calculer ou se dire, hein, je me réveille encore à 3h11. Donc, des fois, juste de l'enlever l'heure de la chambre à coucher, c'est une belle manière de rester déconnecté puis de se rendormir plus vite, en fait.
On a un nouveau papa ici qui nous demande à quel âge ça devient un problème de sommeil un enfant qui fait pas ses nuits?
À quel âge, la question?
Oui.
En fait, le sommeil des enfants, c'est différent du sommeil des adultes. Alors, nous, comme adultes, on a consolidé une période de sommeil de nuit. Puis quand on a un nouveau-né et des enfants, ben c'est pas le cas. Un nouveau-né, ça dort à coup de quelques heures, ça se réveille. Éventuellement, ça va faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi, puis éventuellement, ça va consolider un sommeil la nuit. Il y a des grandes différences entre les enfants. Je dirais, dans les premiers mois de vie, on n'y échappe pas. On doit se lever pendant la nuit. Puis si après, là, à l'âge de un an et demi, on n'a toujours pas consolidé une période de sommeil la nuit, ben il y a des professionnels, il y a des gens qui peuvent nous aider aussi avec le sommeil. L'autre chose que je dirais, c'est est-ce que justement le parent est en privation de sommeil aussi, il s'en ressent. Donc n'importe qui a envie d'avoir de l'accompagnement ou de l'aide, ça se fait ça aussi. Et c'est bien correct, hein, on peut avoir de l'accompagnement pour plein de choses quand on a un nouvel enfant, donc pourquoi pas avec le sommeil aussi.
Il y a le somnambulisme qui existe. Je sais que chez les enfants, ça peut arriver. Moi, je me souviens que ça m'est déjà arrivé quelques fois. Du moins, c'est ce que mes parents m'avaient mentionné. Puis il y en a que même adultes continuent d'être somnambules. Est-ce que la science s'est penchée sur le somnambulisme? Est-ce qu'on a trouvé peut-être des médicaments ou la cause?
En fait, le somnambulisme, est-ce que vous savez pourquoi il y en a plus chez les enfants?
Eh non!
C'est que ça arrive dans un stade de sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond. C'est un stade de sommeil qui est présent en majeure partie en début de nuit. C'est pour ça souvent que les gens qui sont somnambules ou les enfants qui sont somnambules, ça arrive dans la première moitié de la nuit. Et chez les enfants, il y en a plus de ce stade de sommeil-là. Et il est très profond. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein en vieillissant qui, parce qu'ils ont moins de ce stade de sommeil-là, vont éventuellement peut-être ne plus souffrir de somnambulisme. Il y en a qui vont le garder, mais c'est pour ça qu'on en voit plus chez les enfants, en fait.
Puis, qu'est-ce qui fait que chez les adultes, bon, qui font du somnambulisme, on leur parle pendant qu'ils sont somnambules, puis le lendemain, ils sont prêts à jurer qu'on ne leur a jamais parlé pendant la nuit, là?
Oui, ben c'est un phénomène de lequel on ne se souvient pas. D'ailleurs, pour les gens qui ont des actions étranges comme d'aller manger quelque chose ou se lever, se déplacer, même parler des fois aussi pendant la nuit, ils n'auront aucun souvenir de qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est les gens à côté qui vont leur en parler. Donc, c'est ça, on ne se souvient pas de qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est somnambule.
Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que le stress peut causer du somnambulisme?
C'est une bonne question. C'est difficile à dire des fois si le stress peut augmenter certains troubles de sommeil. Il semblerait que oui, potentiellement pour le somnambulisme, mais une chose aussi qui peut l'augmenter beaucoup, c'est la privation de sommeil avant. D'ailleurs, chez les enfants là, qui souffrent de somnambulisme, une chose qu'on va vérifier, c'est s'assurer qu'ils ont suffisamment de sommeil. Pourquoi? Parce que quand on est en privation de sommeil et qu'on retourne dormir après, notre cerveau essaie de compenser pour cette privation de sommeil-là et va créer du sommeil lent profond. Donc, ce stade de sommeil-là dans lequel le trouble va arriver, il va en créer plus, il va être plus profond et donc les enfants ou même les adultes en privation de sommeil qui s'en vont dormir ont plus de chances de faire un épisode de somnambulisme. Donc, une manière là, d'essayer de le gérer, c'est vraiment de s'assurer qu'on dort suffisamment.
La sexsomnie, Maude, c'est quelque chose qu'on a entendu un peu ici et là dans les dernières années. Je sais que ça s'est ramassé aussi en cours. On parle de somnambulisme sexuel, finalement, donc des gens qui porteraient des gestes sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est une vraie affaire ou c'est une excuse? Parce que je me souviens que quand ça avait pris place dans un procès, tu avais deux camps, là, des gens qui croyaient puis du monde qui était comme « Oh mon Dieu, ça va être la nouvelle excuse ».
Bien, du côté juridique, je ne peux pas me prononcer, mais pour ce qui est des sexsomnies, c'est une sorte de parasomnie du sommeil. Puis vous l'avez bien dit, hein, c'est caractérisé par des comportements sexuels pendant le sommeil lent profond, aussi donc le même stade de sommeil dans lequel on retrouve le somnambulisme, et les gens n'auront pas de mémoire des événements.
Ça doit être épouvantable, ça, là. Restez dans le sujet un peu, parce qu'on a des auditeurs qui ont des questions un peu coquettes aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que de faire l'amour ou de se masturber, c'est bénéfique pour le sommeil?
Cette question-là, je l'entends de plus en plus. J'aime ça. Les gens se déjeunent, ils demandent qu'est-ce qui peut les aider à s'endormir. L'idée, en fait, avec ça, c'est que l'orgasme, ça sécrète certaines hormones et ça peut relaxer le corps. Et donc, il y a vraiment certaines personnes qui ont plus de facilité à s'endormir suite à ça.
C'est particulier parce que le truc de sexsomnie, la première fois qu'on en a entendu parler, nous autres, à Québec, c'était vraiment parce que c'était dans l'actualité et il y avait un individu qui se servait de ça pour défendre sa cause. C'est un individu qui était accusé d'avoir agressé sexuellement une femme avec qui il dormait et lui disait « ben je suis sexomniaque et c'est arrivé déjà avec mes anciennes conjointes ». Et on avait fait défiler effectivement à la barre ces anciennes conjointes qui mentionnaient qu'effectivement, pendant la nuit, il avait le goût de faire du sexe, mais il dormait et le lendemain, il s'en souvenait pas.
Bien, comme je disais, ça peut amener des conséquences importantes au niveau juridique, puis je peux pas me prononcer là-dessus. Dans le phénomène du somnambulisme, il y a plein d'actions différentes qui peuvent se retrouver pendant que quelqu'un est somnambule. Puis si on regarde vraiment là, certaines études, il semblerait que c'est la sexsomnie ou ce type de parasomnie-là soit décrite dans la littérature scientifique. Mais après, ça peut amener d'autres conséquences.
C'est intéressant, vraiment. Là, là on a parlé de sexe, Maude, parlons de drogue. Il y a des gens qui nous demandent par texto. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à dormir. C'est une personne qui s'est mise à consommer 3-4 puffs de potes avant le sommeil. Et maintenant, cette personne-là a arrêté de fumer avant de dormir et les troubles de sommeil sont de retour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la drogue peut avoir un impact, justement?
Oui, bien, si on parle de cannabis, en fait... L'insomnie, ça peut être causé par différentes choses, puis ça peut arriver à différents moments de la nuit. Hein. Des fois, on a de la difficulté à s'endormir, mais il y en a d'autres qui s'endorment super bien, mais qui se réveillent 2-3 heures plus tard, puis que là, ils n'arrivent pas à s'endormir pendant la nuit. Fait que ça dépend. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre un petit peu de ce type d'insomnie-là. si on a de la difficulté à s'endormir à cause du stress ou à cause de l'anxiété, ou il y a des gens qui vont dire, ben moi, quand je prends un verre de vin ou deux, là, ça me calme, ça m'aide à m'endormir, ou justement, je vais prendre du cannabis, puis là, c'est comme je m'endors plus vite, par exemple. Le problème avec ces solutions-là qu'on utilise, c'est que souvent, après, elles vont fragmenter notre sommeil. Fait que notre sommeil, il va être de moins bonne qualité suite à avoir pris de l'alcool ou avoir pris du cannabis. Et donc, on se réveille un petit peu plus souvent, puis on n'en a pas toujours connaissance tant que ça, mais notre sommeil va être de moins bonne qualité. Et là, des fois, ça peut venir exacerber le problème parce que ça cause un petit peu de privation de sommeil. Pour ce qui est du cannabis, que les études là, semblent démontrer, puis il n'y en a pas tant que ça, hein, fait que gardez ça en tête, là, mais c'est que si ça aide au début, pendant quelques semaines, éventuellement, il semblerait que ça pue les effets escomptés. Donc, s'il y a vraiment un problème d'insomnie, souvent, moi, ce que je vais conseiller, c'est de passer par des programmes c'est de la thérapie, là, mais de la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, parce que là, ça peut venir adresser les causes sous-jacentes à l'insomnie, puis donner vraiment plein d'outils pour gérer son sommeil, sans nécessairement avoir besoin de ces substances-là.
L'impact de la nourriture sur le sommeil?
Bien, en fait, ce qu'on peut dire là, sur la nourriture, c'est que on veut pas aller se coucher le ventre vide ou le ventre trop plein. Donc, ça peut être bon de laisser quelques heures passer entre justement le dernier repas, là, le souper, puis le fait d'aller se coucher. Puis après, bien, c'est sûr que tout ce qui est sucre, tout ce qui est aussi stimulant, donc par exemple, s'il y a de la caféine dans du chocolat, ou même si on prend du thé ou des choses comme ça, bien là, ça peut venir avoir un impact sur le sommeil. Et même si on ne s'en rend pas compte, hein, vous savez qu'il y a des études sur la caféine qui montrent que des fois, les gens n'avaient pas connaissance que ça avait des impacts sur leur sommeil. Puis quand on regardait objectivement, là, avec des petites électrodes, tout ça, ce qui se passait dans leur sommeil était plus fragmenté, ils passaient moins de temps dans les stades de sommeil plus profonds, donc plus de temps dans les stades de sommeil léger. Donc, non. Attention. On ne veut pas arrêter, ça me fait du bien pendant la journée, mais si on a un moins bon sommeil, ça peut être quelque chose à regarder.
Ouais, quand on regarde, bon, il y a des gens qui ont des problèmes là, quand ils dorment. Bon, ils peuvent dormir 8, 9, 10 heures, puis ils n'ont pas l'impression d'avoir dormi assez de temps. Ces gens-là, y en a qui disent « OK, ça n'a pas rapport avec mon poids », mais y a-t-il un impact là? La grosseur de la personne, l'obésité morbide, peut-tu avoir un impact flagrant sur le sommeil, sur le manque de sommeil, sur la difficulté à dormir?
Ça peut avoir un impact dans le sens où, tu sais, on parlait d'apnée du sommeil au début là, de l'appel. C'est le fait d'arrêter de respirer pendant la nuit. Puis, il y a différents types d'apnée du sommeil, mais il y en a une, c'est l'apnée obstructive. Puis, quand on fait de l'embonpoint, ça peut créer de l'apnée du sommeil. Et donc, ça peut être lié à un sommeil beaucoup plus fragmenté. Donc, ça vaut toujours la peine. Si les gens se disent « Ah, moi, je peux dormir 8, 9, 10 heures, mais je me sens jamais reposée, je me sens fatiguée, j'ai de la somnolence, même pendant la journée, hein, je somnole au volant ou même pendant une réunion, j'ai de la misère à garder les yeux réveillés, peu importe le nombre d'heures que je dors, ça vaut la peine d'en parler à son médecin. » Et l'autre chose que je dirais, si vous dormez avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là vous a entendu ronfler, vous a entendu arrêter de respirer pendant la nuit puis reprendre votre air, ça se traite dans l'apnée du sommeil, ça se traite assez bien, donc ça vaut la peine d'investiguer si c'est le cas.
Est-ce que t'es mieux quand t'es en couple puis que t'es pas capable de dormir à cause de ton conjoint ou ta conjointe, à un certain point peut-être de faire chambre à part?
Bien, c'est une solution, hein. Puis souvent, ce que je dis, c'est que ça peut être un ou l'autre. Des fois, on se dit, ah, si on fait chambre à part, hein, on dort plus jamais ensemble, ou bien là, si on dort ensemble, il faut que ça soit 100% du temps. Des fois, ce que je vais proposer, c'est s'il y a des périodes plus stressantes, que ce soit au travail ou même on a des semaines, des fois, plus chargées, et qu'on sait qu'on veut vraiment bien dormir, qu'on veut prioriser son sommeil, puis que des fois, l'autre à côté de nous nous réveille, pourquoi pas le faire quelques nuits ou dans des moments spécifiques aussi. Donc, des fois, ça peut être tout ou rien. Ça peut être un outil, effectivement, qui nous aide à récupérer un petit peu, à dormir tout seul, à bien dormir. Puis après ça, ben, on peut revenir puis dormir ensemble.
C'est quoi le grand sommeil? C'est quoi le grand secret d'un sommeil adéquat? Est-ce que c'est constamment la régularité? On se couche toujours à la même heure, on se lève toujours à la même heure. Puis c'est difficile, on le sait, là, la fin de semaine, le vendredi puis le samedi, on se dit ah, « j'aimerais ça me coucher plus tard ». Mais est-ce qu'en bout de ligne, si on fait du 7 jours sur 7, les mêmes heures de sommeil dans le même temps, c'est-à-dire on se couche à 22 heures, puis on se relève à 6 heures ou 7 heures le matin, c'est-tu ça le secret, la régularité?
Hey, ça, c'est la question à 1000 piastres, hein? qu'est-ce qui fait qu'on a un super bon sommeil? C'est vrai que d'être régulier, ça aide à cause de la petite horloge biologique dont je vous parle. Elle aime ça, de faire toujours les mêmes choses à la même heure, de se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Donc oui, la régularité, ça peut aider à avoir un bon sommeil. Mais il y a plein d'autres choses hein, qu'on peut faire. Je pense à l'exercice physique, par exemple. Le fait de bouger là, pendant la journée, ça aide aussi la composition de notre sommeil. Si on a de la difficulté à se mettre en action le matin, bien, de mettre de l'activité physique le matin, ça peut être très bon pour nous aider justement à commencer la journée. Ou même à la fin d'une journée de travail, hein, fin d'après-midi, début de soirée, ça peut être bon aussi pour la profondeur du sommeil, pour la qualité du sommeil finalement. Donc, l'exercice physique, ça va aider. L'autre chose que je dirais, c'est d'aller chercher le sommeil dont on a besoin. Ça veut dire que le fameux 8 heures de sommeil qu'on entend, c'est juste une moyenne. Il y a des gens qui en ont besoin de 9-10, puis il y a d'autres qui en ont besoin de 5-6. Donc, des fois, de pas trop se comparer, puis d'essayer d'y aller avec vraiment notre besoin à nous, notre timing à nous aussi. Si on a la chance de le faire, ben ça peut être bien pour notre sommeil.
Est-ce que si on dort, je sais pas, vraiment peu en semaine, là, tu sais, les gens qui soient, bon, des bébés tout neufs ou des horaires complètement atypiques, c'est une bonne chose de se laisser aller le samedi-dimanche? Tu sais, il y en a qui disent « Ah, je vais récupérer mon manque de sommeil puis ils dorment jusqu'à midi ouais. le samedi-dimanche » ou tu viens complètement te débalancer?
Bien là, c'est un peu de voir le coût-bénéfice, hein, parce que si on est toujours en privation de sommeil puis que notre seul moment pour dormir plus, c'est justement le week-end ou quand on est en congé, je pense que ça peut valoir la peine de le faire. Après, il y a de l'accompagnement qu'on peut faire hein, aussi par rapport aux horaires atypiques. Puis, ne pas sous-estimer les siestes aussi. Donc, les gens vont se demander souvent, OK, mais est-ce que c'est bon de faire des siestes? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça devrait être 20 minutes, 2 heures? Pour les gens qui ont des horaires atypiques ou justement des horaires où ils sont en privation de sommeil pendant un petit bout, de faire des plus longues siestes, ça peut être aidant. Par contre, pour les gens qui ont de la difficulté à dormir de nuit, tu sais, difficulté à s'endormir ou qui vivent justement de l'insomnie, des fois, les siestes pendant la journée, plus elles sont longues ou plus elles sont tard, plus ça peut interférer avec notre sommeil de nuit. Donc, ça dépend de c'est quoi notre besoin, ça dépend de à quoi ça ressemble notre sommeil pendant la nuit. Mais si quelqu'un est somnolent, pendant la journée ou a de la difficulté justement à fonctionner, des fois, juste une courte sieste, un 20 minutes en après-midi, ça peut aider vraiment beaucoup. Puis, ça va pas juste aider la sonore, ça va aider notre cerveau aussi. On va être plus alerte après. Donc, ça, c'est quelque chose que je conseille quand même aux gens qui ont de la somnolence en journée.
Maude Bouchard, tu es neuropsychologue spécialisée en sommeil. J'imagine que, tout comme nous, là, tu vas faire un tour des fois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et tout ça. Puis il y a toujours des nouvelles techniques qui nous sont rapportées là, pour le sommeil. Puis j'avais vu des gens qui mentionnaient ne jamais dormir de longues heures continues, faisaient juste des sommes. À long terme, les impacts que ça peut faire pour des petites sommes là, de 15-20 minutes que tu fais à répétition pendant ta journée, à long terme, les dommages pour la santé, ça peut être quoi? Puis est-ce que c'est une nouveauté là, que tu apprends aujourd'hui ou tu n'avais déjà entendu parler?
Non, ben il y a bien des modes hein, en lien avec le sommeil. Puis ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues, effectivement. À la base, il faut se rappeler que comment notre cerveau est fait, puis les hormones qui sont sécrétées la nuit versus le jour, l'humain est vraiment fait pour consolider une période de sommeil de nuit plus longue, puis pour être réveillé pendant la journée. Il y a des gens qui vont dire que en après-midi, c'est un bon moment pour ajouter une sieste. Puis culturellement, il y a des endroits dans le monde où est-ce qu'on fait la sieste en après-midi. Puis ça, c'est lié en partie au fait que notre température corporelle interne, elle va aussi fluctuer sur une période de 24 heures. Pendant la nuit, ouais. Elle diminue, elle est plus basse et elle se met à monter le matin. Puis en début d'après-midi, elle redescend un tout petit peu. Fait que des fois, c'est pour ça qu'on se sent somnolent. Puis que là, on se dit, oh, ça serait un bon moment pour une sieste. Puis sinon, côté, tu sais, pour la question de dormir en petite période, je pense pas que c'est conseillé. Je pense que ça nous place dans une position de privation de sommeil. Puis là, on revient à tous les impacts que la privation de sommeil peut avoir justement sur notre fonctionnement, sur notre cerveau puis sur notre santé physique aussi.
Et moi, c'est le rêve, Maude, là, d'être à quelque part où on a encore des siestes comme à garderie l'après-midi. Moi, je rêve qu'on me dise,
oui.
Sors ton tapis, puis fais une sieste ouais. l'après-midi. Le trou.
Mais moi, souvent, je vais le dire aux gens. Je vais leur dire, si vous avez la chance, puis là, maintenant, en plus, il y a des gens qui travaillent de la maison. Il y a ouais. plein. Si vous avez la chance, puis vous avez besoin, fermez-vous les yeux 15-20 minutes. Puis à la limite, même si vous ne dormez pas, ça sera un moment de repos. Pourquoi pas prendre ce temps-là, là, au moins une fois pendant la journée?
Le trouble du sommeil le moins commun que tu as traité?
Bien, le moins commun, il faut savoir, il y a certains troubles de sommeil qui doivent être traités au niveau médical, hein, qu'on doit parler à son médecin. Nous, à la clinique Aléo, on va vraiment traiter tout ce qui est insomnie, troubles de sommeil du travailleur posté, donc les gens qui ont des horaires atypiques, on va traiter les cauchemars aussi, puis on a des problèmes, des programmes d'optimisation du sommeil. Donc pour les gens qui se disent, je pense pas que j'ai un trouble, mais j'aurais peut-être envie, tu sais, d'améliorer ça, puis d'en apprendre là-dessus. Fait que ça, on va traiter ça au niveau comportemental, fait que c'est des programmes, c'est des thérapeutes agréés qui vont faire ça. Par contre, il y a plein de troubles de sommeil. Tu sais, je pense, la dernière fois que j'étais avec vous, on parlait de narcolepsie, par exemple. Ça, c'est beaucoup moins fréquent et c'est médical. Donc, on doit vraiment en parler à son médecin. On doit être suivi en clinique de sommeil. Et il y a certains troubles de sommeil qui sont traités via de la médication. Ça dépend. Selon le trouble, on n'aura pas les mêmes solutions, en fait.
Il y a plusieurs questions d'auditeurs qui entrent encore. Je pense que tu avais raison de choisir ce domaine-là parce qu'effectivement, tout le monde le vit. Il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, j'ai une question. Si on prend de la mélatonine, puis bon, ton corps en produit déjà et tout, est-ce que ça peut devenir un problème à long terme? »
Donc, si on regarde les études sur la mélatonine, puis encore une fois, je pense qu'il y a place à avoir plus d'études, surtout à long terme, là, il semblerait pas que le corps s'habitue à la prise de mélatonine, un peu comme on s'habituera à la prise de somnifères. Hein. Souvent, les gens vont faire référence à ça parce qu'on sait que un somnifère, éventuellement, le corps s'habitue, puis là, on a besoin d'augmenter la dose. Donc, ça traite pas le problème sous-jacent quand c'est de l'insomnie. Pour ce qui est de la mélatonine, c'est différent un petit peu parce qu'à la base, puis la personne l'a bien mentionné, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, la mélatonine. Elle se met à être sécrétée 2-3 heures avant notre heure de coucher, va être sécrétée pendant la nuit, puis après ça, pendant la journée, il y en a pas. Il y a des manières naturelles d'essayer de justement potentialiser la sécrétion de la mélatonine, comme diminuer la luminosité 2 heures avant d'aller se coucher. Puis si on en prend de la mélatonine, là, moi je dis toujours la même chose, allez-y avec la plus petite dose, premièrement, parce que déjà ça, c'est bien plus que ce que le cerveau produit naturellement, puis c'est ça va faire les effets et ça va vous empêcher d'avoir des effets secondaires, des fois avec des doses plus élevées. Souvent, dans les études scientifiques aussi, on va l'utiliser pour, par exemple, les gens qui voyagent et qui ont besoin un peu de repartir leur horloge biologique avec la nouvelle heure d'où est-ce qu'ils sont. Les gens, des fois, qui doivent se lever très tôt aussi et donc se coucher très tôt, peut-être à un moment où il n'y en a pas encore de la mélatonine qui est sécrétée. Des fois, ça peut être utile. Ou même les gens qui vont travailler de nuit, par exemple, et qui dorment de jour, puis que là, on n'a pas la sécrétion naturelle de mélatonine. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles ça peut être correct de l'utiliser, mais vérifiez quand même avec soit votre médecin ou pharmacien, pharmacienne, pour voir qu'il n'y a pas d'interaction, là, même si c'est quelque chose en vente libre, voir qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments que vous prenez peut-être.
Je pense que tu viens de défaire un gros mythe, Maude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, moi, m'ont déjà dit « Ah non, la mélatonine, tu deviens accro, t'as ton corps, ça c'est pas bon à long terme. » Fait que j'ai l'impression que tu viens peut-être de régler des problèmes pour certains. Toujours dans la catégorie des textos, est-ce qu'il y a un remède contre la paralysie du sommeil?
Bien là, la paralysie du sommeil, ça, c'est un phénomène qui est pas plaisant à vivre. Alors, c'est vraiment l'idée que puis ça va se passer souvent soit au matin ou à l'endormissement. Tu sais, tantôt, je vous parlais du sommeil paradoxal. Puis je vous disais, on est complètement, on est paralysé pendant le sommeil paradoxal, on ne bouge pas. Et ce qui arrive suite souvent à une période de sommeil paradoxal, c'est qu'on va avoir de l'éveil. Et là, pour la paralysie du sommeil, c'est que notre cerveau se réveille, sauf que notre corps est encore paralysé. Puis des fois, les gens, ils se disent, voyons, je suis conscient, j'entends des choses, je sais que je suis dans ma chambre, puis j'arrive pas à bouger, en fait. Et ça peut durer quelques secondes à quelques minutes, puis ça peut être bien, bien stressant. La paralysie du sommeil, ça peut être augmenté avec la privation de sommeil aussi. Donc, un peu comme quand je parlais du somnambulisme, ça peut valoir la peine d'avoir un horaire de sommeil assez régulier et de faire attention à la privation de sommeil, parce que ça peut augmenter ce phénomène-là.
Maude, j'ai beaucoup de gars de construction qui sont autour de moi dans ma vie. J'ai des gars qui font du camionnage aussi. Puis ces gars-là me rapportent constamment que dès qu'ils se couchent la tête sur leur oreiller, s'endorment immédiatement. Tu comprendras qu'ils font beaucoup de jaloux. Mais quel est l'apport des efforts physiques quand on travaille en semaine, quand on travaille fort? Excusez-moi, il y a peut-être un peu trop de bruit ici. Là. Mais quel est l'apport de l'effort physique dans le sommeil qui est un peu plus rapide pour certains?
Ben en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'activité physique. Le fait d'être actif physiquement, tu sais, notre corps, il est fait pour bouger. Il a pas nécessairement été designé pour être assis devant un ordinateur pendant 12 heures toute la journée. Donc, quand on bouge, quand on est actif, puis là, justement, on pense aux gens qui travaillent sur la construction, sont très actifs. Hein? Ils bougent toute la journée, ça marche, ils lèvent des matériaux lourds. Donc, ça ne me surprend pas de savoir que, justement, ils sont capables de bien s'endormir. De cette activité-là. L'autre chose, c'est des fois, hein, les horaires peuvent être assez intenses. Donc, si on a à se lever très, très tôt, bien, c'est sûr que là, on arrive le soir, puis moi, j'appelle ça le principe de l'élastique, là, mais notre pression de sommeil est très élevée. On va être somnolent, ça se peut qu'on manque de sommeil peut-être aussi un petit peu plus. Donc, on s'endort plus vite, puis on dort plus profondément dans ce temps-là.
Donc, tu recommandes, en tant que neuropsychologue, tu recommandes aux gens de faire du sport. Là. C'est ceux qui ont de la misère à dormir.
De bouger. Oui, je recommande de bouger certainement.
On n'aime pas ça entendre ça, on dirait. Hein? Il y a des gens qui demandent, puis je trouve ça super intéressant. Y a-t-il des trucs ou une explication si je me réveille souvent au milieu de la nuit, complètement en sueur, super chaud, lit mouillé, mais je suis pas malade?
Ça, c'est quelque chose à discuter aussi, je pense, avec le médecin, dans le sens où ça peut arriver à différents moments de la vie. Ça peut être, ça peut être lié à différentes causes. Puis, tu sais, je vous parlais de la température corporelle interne qui fluctue. La nuit, pour bien dormir, là, notre température va baisser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans la chambre à coucher de garder sa chambre quelques degrés en dessous du reste de la maison. C'est pour ça aussi que quand l'été arrive, puis là, bon, mon Dieu, je le visualise dans ma tête, j'ai assez hâte, mais il fait plus chaud. Et les gens, des fois, vont dire, voyons, comment ça se fait que je dors mal comme ça durant l'été? Parce qu'il fait trop chaud et notre corps n'est pas capable de se refroidir. Donc, c'est important que l'endroit dans lequel on dort soit frais. Puis si jamais on a des chaleurs comme ça nocturnes où on se réveille, justement en sueur, ben des fois, ça peut valoir la peine de se garder un kit de rechange si on dort avec des vêtements, quelque chose qui respire avec des fils naturels, ça va faciliter. Mais si c'est quelque chose qui est là puis qui nous dérange vraiment, ben pourquoi pas en discuter avec son médecin. Je pense que des fois, le sommeil, on se dit, bon, tu sais, c'est pas sur notre liste de choses à parler, mais moi, j'encourage les gens vraiment à discuter de ça si on est problématique pendant leur sommeil.
Bien, parce que quand tu as une mauvaise qualité de sommeil, ça gâche une partie de ta vie, là. Tu sais, ça gâche le fait d'apprécier la vie. Quand tu es toujours brûlé, quand tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu te dis, coudonc, moi, je mets tout de mon côté pour que ça fonctionne. Je me nourris bien, je fais du sport. Puis malgré tout ça, le soir, quand j'arrive pour dormir, c'est très long avant que je m'endorme. Puis la nuit, ben je fais de l'insomnie. Ça doit être frustrant. Ça doit être un peu humiliant même, tu sais, de ressentir ce genre de sentiment-là, de toujours être brûlé. Comment je fais, moi, si j'ai ce type de problèmes-là de sommeil pour rencontrer une spécialiste comme toi qui est neuropsychologue?
Bien, comme je disais, là, les gens qui ont de l'insomnie, qui ont des problèmes de sommeil, puis c'est bien dit, ça c'est frustrant, puis ça impacte plein de choses dans notre vie. Moi, je propose la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. Là, c'est une grosse bibitte, là, comment je dis ça, mais la TCCI. Donc, il y a différents hôpitaux qui vont l'offrir. Chez Alio, c'est quelque chose qu'on offre aussi. Des fois, il y a des psychologues, des psychothérapeutes qui vont être spécialisés dans ce type d'intervention-là. Mais ça fonctionne vraiment bien. C'est quelque chose, comme je disais, on va pas juste jouer avec l'hygiène de sommeil. Les gens, souvent, là, ils savent que la caféine a un impact sur leur sommeil. Puis surtout, quand on a des problèmes de sommeil, on a fait beaucoup d'essais-erreurs. On a essayé des affaires. Et c'est pas juste des changements sur l'hygiène de sommeil qui vont venir régler les problèmes de sommeil. Donc, des programmes comme ça, ça vient changer certains comportements. Ça vient vous apprendre plein de choses aussi sur comment ça marche, le sommeil dans le cerveau, la physiologie du sommeil, pour que, après les quelques semaines du programme, vous soyez capable de prendre les bonnes décisions. Il y a plein, tu sais, on se refera une rencontre à un moment donné, là, mais il y a plein de choses des fois que les gens font, puis ils pensent que ça les aide, puis finalement, ça vient exacerber le problème d'insomnie. Donc, c'est des choses là-dessus qu'on va travailler.
Ouais. Est-ce que je dois passer par mon médecin de famille ou encore un médecin en clinique pour être référé justement à une clinique du sommeil?
Ça dépend si c'est un problème médical. La réponse, c'est oui. Si on a besoin là, d'être dans une clinique médicale pour justement soit de la médication, des choses comme ça, ça va passer par le médecin. Mais pour la TCC, les problèmes que je vous parle, non. Par exemple, chez Alio, là, sur le site web, vous avez directement une petite évaluation de votre sommeil gratuite là, qui dure 5 minutes. Puis ça vous décrit toutes les étapes finalement pour entrer en clinique. Mais ça, vous pouvez le faire comme ça, là, puis avoir un rendez-vous très rapidement dans la prochaine semaine. Mm.
Dernière question d'auditeur que je vois passer rapidement comme ça. Il y a quelqu'un qui dit « Souvent, quand je me mets à vraiment mal dormir depuis une couple de jours ou de semaines, je vais faire une nuit blanche et après, tout se replace. Comme si ça faisait un reset de système. » J'ai l'impression qu'on est dans la catégorie mythe ou réalité ici, Maud.
Hey, ça, je trouve ça tellement intéressant là, parce que c'est pas faux du tout. Ça. Après, je suis pas en train de dire à tout le monde de faire des nuits blanches pour gérer leur insomnie. Je pense que c'est, il y a différentes manières de le faire qui sont peut-être un petit peu moins intenses. Sauf que, rappelez-vous, hein, je vous disais, la privation de sommeil, ça crée un sommeil qui est plus profond. Le cerveau essaie de compenser. Et donc, chez les gens qui souffrent d'insomnie, qui ont de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi pendant la nuit, des fois, on va passer moins de temps au lit, on va réduire le nombre de temps qu'ils vont passer au lit, justement pour essayer d'avoir un petit peu plus de sommeil lent profond, pour augmenter la pression de sommeil. Donc, dans le cas de cet auditeur-là, il augmente sa pression de sommeil, puis après ça, ce qu'il crée, c'est ce qu'on appelle un rebond de sommeil. La nuit suivante, quand il retourne se coucher, son corps est en privation et donc il est capable de mieux dormir. Un peu drastique, il y a des méthodes moins drastiques pour le faire, mais ça
ben, c'est dur, là. Mais ben, quoi que tu peux te taper, écoute, une saison de série au complet, ça peut se faire. Dans la catégorie, je te dirais, truc de grand-mère, j'ai souvent entendu « bois un bon lait chaud avant d'aller dormir si t'es pas capable d'aller faire dodo ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider, mettons, avant de se coucher à avoir un bon sommeil ou c'est complètement n'importe quoi?
C'est difficile pour moi parce que dans la littérature scientifique, il n'y a pas tant de bonnes études qui montrent justement l'effet d'un aliment en particulier sur le sommeil. Dans certaines études, des fois, on voit des petites choses. Ce que je dirais là, par rapport à la routine de sommeil, c'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous aide à diminuer le stress de la journée, qui vous aide à déconnecter aussi, puis essayez de pas trop repousser la somnolence, essayez d'écouter votre corps. Des fois, notre corps, il nous le montre, qui est prêt à aller se coucher, puis là, on se dit, mais j'ai vraiment le goût de la finir, cette émission-là. Puis une fois de temps en temps, c'est correct de le faire, mais si on le fait tout le temps, ça fait en sorte qu'on ressent même plus tant que ça la somnolence en soirée à cause, justement, soit parce qu'on prend de la caféine ou à cause des activités, des écrans, de tout ce qu'on fait. Fait que des fois, de revenir à la base, de se déconnecter un peu en soirée puis de faire des choses qui nous font du bien, puis ça, ben c'est différent d'une personne à l'autre. Ça va nous aider à naturellement ressentir la somnolence puis aller se coucher à une heure qui a du bon sens pour nous.
Maud Bouchard, neuropsychologue, il nous reste deux questions. Je vais prendre la première. Écoute, quand on a une grosse vie comme moi, là, le soir, quand je me couche, je laisse la télé ouverte puis je mets mon timer parce que je m'endors avec la télé dans la chambre. Il y en a d'autres qui vont regarder leur cellulaire pendant de longues minutes et après ça, ben, ils vont fermer leur cellulaire puis ils vont tenter de s'endormir. Y a-t-il un impact néfaste réel, que ce soit sur les téléviseurs conventionnels ou encore les écrans sur le cerveau?
En fait, souvent, ce que je vais dire, c'est si on s'endort super vite puis qu'on dort super bien, on a la chance de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Donc, ça, c'est une chose. Après, si on souffre d'insomnie, si on a de la difficulté à s'endormir ou même qu'on se réveille dans la nuit puis on n'arrive pas à s'endormir, c'est là où des fois, ça vaut la peine de faire un peu de ménage puis que d'avoir, tu sais, la télévision dans la chambre ou d'en avoir toujours besoin pour se rendormir, ça devient plus problématique. Tu sais, dans votre cas, vous dites vous êtes un bon dormeur, donc ça semble bien fonctionner. La TV est probablement allumée, tu sais, une vingtaine de minutes, puis après ça, on dort, puis elle se ferme, puis on fait notre nuit. Donc, moins problématique si on n'a pas de difficulté de sommeil. Un petit peu plus si on souffre d'insomnie, puis là, des fois, on va aller faire du ménage dans ce genre de comportement-là pour justement pas trop affecter notre sommeil.
Audrey, tu avais une question?
J'avais la même que toi, mon cher. Elle
est
répondue.
On est bon.
Les fameux écrans.
On pense pareil.
C'est qu'on se dit, on se fait souvent dire, hey, écoute pas d'écran, regarde pas d'écran avant de dormir, c'est pas bon, oui. Ça active ton cerveau, on dirait que tu sais plus quoi écouter parce qu'il y a toujours une étude qui en contredit une autre, là.
Ouais. C'est un peu vrai, hein? Fait que c'est pour ça que je ramène souvent les gens à qu'est-ce qui vous fait du bien. Si ça vous relaxe de regarder votre cellulaire pendant 15 minutes avant d'aller vous coucher, puis vous endormez vite, puis après ça, vous n'avez plus besoin pendant la nuit, ben allons-y comme ça, tu sais. Par contre, il y a des gens qui vont l'utiliser, puis là, ils se réveillent la nuit, puis là, ils prennent, puis là, c'est long de se rendormir, puis là, ils ont de la difficulté, puis ils ont toujours besoin de leur écran, où là, c'est plus problématique. Fait que vraiment, faut en prendre et en laisser, puis faut s'écouter.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Maud. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Énormément de commentaires par rapport à cette entrevue-là. Des questions, je pense, qui ont été pour la plupart toutes répondues, là, à majorité de ce que je suis en train de lire ici. Maud Bouchard, c'est toujours un plaisir. Tu es neuropsychologue spécialisé en sommeil. En espérant te reparler dans les prochains mois.
Avec grand plaisir. Bonne fin de journée.
À bientôt, Maud.
Nous autres, on s'arrête. Il est 11h13. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Et moi, de mon côté, je suis du côté du Salon international de l'auto de Québec. Je peux vous dire que je suis super bien entouré. Des belles voitures. Je vais juste me vanter un peu, là. Des Porsche, j'ai ça à côté de moi. Lotus, des Audi, des McLaren, des Lamborghini, des Maserati. J'ai ça directement dans le kiosque de Rouler Passion. Fait que si vous croisez Rouler Passion, vous allez certainement nous voir. Puis venez passer ici, là, je vois des enfants, je vois des adultes, je vois des anciens joueurs, des Nordiques de Québec.
Red
un
bon.
Qui est passé, qui est en train de reluquer une Porsche. Là. Là, il est rentré dans un autre kiosque, mais il a sa calotte sur la tête, mais je l'ai reconnu pareil.
On
parce
sait
que
bien.
Je suis un ancien fan
les Nordiques anciens ils sont... joueurs, ils ont de l'argent, ouais. Ils peuvent s'acheter des Porsche.
Ouais, mais pas tous les joueurs des. Pas tous les anciens joueurs des Nordiques qui peuvent le faire. Mais lui, celui qui vient de passer, je peux vous dire qu'il peut s'en acheter deux puis trois Porsche là, aujourd'hui. Mais il est ici avec une petite calotte beige. Bon, c'est un indice que je vous donne. Donc voilà, vous pouvez passer, venir nous voir sans aucun problème. On fait une courte pause.
On revient.
Droit. Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné, ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Au 101 restaurant de quartier, chaque bouchée est une découverte. Savourez un menu à l'aveugle en 4 ou 7 services spécialement pensés pour éveiller vos sens. Vivez une expérience gastronomique unique au 101 restaurant de quartier. Réservation sur le 101restaurant.com.
Du 4 au 9 mars à Expo Cité, entrez dans l'action du Salon de l'Auto de Québec. Découvrez les nouveautés automobiles, des véhicules de rêve et une foule d'activités. Tatoueurs, pistes de karting, véhicules antiques, essais routiers, zones arcades, jeux gonflables, conférences et bien plus vous attendent. Nouveautés cette année, ne manquez pas les galas de lutte de la NSPW. Le Salon de l'Auto de Québec en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaires médias TVA, Journal de Québec, Boulevard 102.1.
À ceux qui affirment que l'aéroport de Québec est trop petit, nous voulons vous dire que...
Ça ne lui empêche pas d'offrir une multitude de vols directs vers le sud, l'Europe et les États-Unis. Contactez votre conseiller en voyage ou visitez décollerdequebec.ca. YQB, le plus petit des grands aéroports.
Être connecté à tout et branché aux atouts, le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Profitez pleinement de ma journée puis de ma soirée. Le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Avec gym, piscine, golf intérieur, resto et terrasse aménagée, le quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
As-tu vu ça? Équilibre offre deux paires d'orthèses plantaires conçues et fabriquées au Québec pour 635 $.
Quoi? Ailleurs, j'ai payé ce prix-là pour une seule paire.
En plus, la consultation est sans frais. Prenez vite rendez-vous en ligne au équilibre.net.
Nissan fête 60 ans au pays et on a plein d'offres sur le Ariya 100% électrique. Ça va faire beaucoup de chiffres, mais voici le cours de maths Nissan. Donc, si on a 5 000 $ de rabais Nissan plus un autre boni allant jusqu'à 5 000 $, ça donne quoi? Jusqu'à 10 000 $ en rabais sur les Ariya sélectionnés. Et si on offre la location à partir de 2,99% plus la chance de gagner sa valeur, ça donne une offre bien gagnante. Essayez le Nissan Ariya 2025 aujourd'hui. Jusqu'au 31 mars, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Aucun achat ou location requis. Détails sur Nissan.ca.
Moreau PRS. C'est près de 40 ans d'expérience, des produits faits sur mesure selon vos besoins et des matériaux de haute qualité. Le 10 mars, c'est l'ouverture de notre nouvelle succursale à Québec, au 2000 Boulevard Amel. Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnages. pas de rire en canne. De la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Open mic!
L'open mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Canada, c'est 0 degrés sur Québec. Donc, à certains endroits, il neige. À d'autres, il pleut, si je me rappelle de mes cours du secondaire. Plus verglaçante cet après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne. Accumulation de neige et d'eau entre 2 et 4 cm pour la journée. Ce soir, encore de la pluie, un 15 mm, des rafales à 60 km/h pour ce qui est de ce soir, cette nuit. Fait que ça va brasser peut-être un peu. Jeudi, demain, de la pluie ou bruine avec des nappes de brouillard demain matin. Entre 5 et 10 mm annoncés, des températures stables pour atteindre plus 4 en après-midi. Pluie ou neige en soirée, nous dit-on aussi, avec un minimum de moins 5. Et si je termine avec ça, vendredi, nuageux avec 70 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 4 degrés. Hey, le sujet du sommeil, ça a donc bien levé.
Ça fait tellement réagir. Là. Puis c'est drôle parce que je me disais, bon là, ça fait deux fois qu'on la reçoit, d'après moi, on va avoir fait le tour, tu sais. Mais il y a encore des questions qui entrent. Je me suis pris une note sur un sujet qu'elle nous a proposé aussi. Puis elle est bonne, elle vulgarise bien. Puis c'est tout ce que j'aime avec elle, Yann. C'est le fait que j'ai l'impression que c'est pas dramatisé. Tu sais, des fois, tu lis des études sur le sommeil, des articles, puis c'est comme, regarde pas ton sel, et ta routine, mange pas, fais pas ci, fais pas ça, puis t'es comme, tabarnouche. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a rétabli un peu les faits de façon un peu plus stable.
Ouais, c'est pas comme on peut voir des fois l'été, là, tu sais, quand il y a des canicules à la télé, là, pas générationniste, généraliste, mais les télés spécialisées, là, 24 heures sur 24 sur la nouvelle, là, t'as la dame de météo qui dit, ben là, s'il fait chaud, faut boire de l'eau. Tu sais, c'est pas aussi clair.
Non,
c'est pas
ça,
aussi. C'est pas aussi mamantisé. C'est pas aussi mamantisé qu'à la télé. All right. Hey, c'est déjà tout pour nous, ma belle Audrey. As-tu des projets pour cet après-midi?
Être en onde, idéalement.
Ouais.
Est-ce que
vous venez au Salon de l'auto? Est-ce que vous venez au Salon de l'auto aussi?
Non, on sera pas au Salon de l'auto. On te laisse ça. Fait que c'est vous autres qui s'occupez de ça pour cette semaine. Nous, on reste en studio.
Ben moi, je suis bien ici. Là. Ben, j'ai mes ordinateurs. J'ai le technicien de la station qui est là. J'ai Priscilla aussi qui est là pour donner des cadeaux aux enfants, pour aux parents qui passent, qui veulent des petits produits dérivés de la station. C'est le fun de rencontrer les auditeurs. On se fait des petits saluts pour l'instant, mais quand il y a des pauses, on peut donner des mains.
Yann, juste avant de te laisser, je veux dire aux auditeurs que sur la capitale, direction Est en ce moment, là, à la hauteur de Lormière, il y a un bon ralentissement à prévoir. Laurentienne-Sud, ouais. Quand vous arrivez vers la capitale, difficile aussi. Il y a des problèmes sur le boulevard Charest encore au moment où on se parle aussi, là, près de Robert Bourassa. Et Guillaume Couture sur la rive sud dans les deux directions à la hauteur de la route du président Kennedy. J'ai l'impression que la petite neige qui tombe au sol fait que c'est glissant par endroits. Soyez prudents, quoi que ce soit, 418-971-1021.
Audrey, on n'a pas un cadeau à donner aux auditeurs concernant le Diamant de Québec.
En fait, c'est une recommandation qu'on a envie de vous faire du 13 au 15 mars prochain. Le Diamant qui présente le spectacle Dimanche. C'est une expérience théâtrale qui est immersive pour toute la famille. Super trippant. Là. En gros, le show raconte l'histoire d'un dimanche complètement ordinaire en famille où vous allez suivre une équipe de reporters animaliers qui vont vous faire voir le plus bel ours polaire jamais vu sur une scène de théâtre. Tout ça en plein chaos climatique. Donc, marionnettes manipulées avec grande maîtrise, il faut le dire, des acteurs, actrices, bandes sonores aussi, au rendez-vous, évidemment. C'est pour les 20 ans et moins. C'est moins de 20 $ tout inclus. Les billets pour adultes sont à partir, eux, de 52 $ Les places sont limitées. Les billets, c'est assez simple. Lediamant.ca, vous avez la programmation aussi sur place. Et rendez-vous sur le blvd.fm, section concours pour gagner 2 billets adultes plus 2 billets enfants pour la représentation de vendredi prochain, 19h30.
Dans les prochaines minutes, Pascal CV dans l'avion pour aller rencontrer l'homme de sa vie au pôle Nord, de ce qu'on comprend. Donc, ce sera Jacinthe Varel qui va être avec moi pour toute l'émission au grand complet. Et on accueillera aussi Sam Yushi, qui est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui va être avec nous pour nous parler du Salon international de l'auto de Québec, qui est un beau salon. J'ai fait le tour rapidement tantôt. Puis les véhicules, Audrey, ça fait des jaloux.
Ça a l'air beau. Profitez-en.
Oui. On n'a pas tout ton argent. Fait que... faut magasiner. On va essayer de magasiner à rabais.
Et oui, c'est ça. Là. Essayez quand même de faire attention au portefeuille. Hey, Yann, Jean Leloup qu'on entend derrière Balade à Toronto. Je te dis à demain.
Salut, à tantôt. Bye-bye.
Salut, bye.